Bonjour à tous, bienvenue dans la Grande Table. Tous les futurs possibles, la science-fiction est-elle un espace d'émancipation? Rendez-vous avec un écrivain de l'imaginaire à partir de 12h55, l'auteur de science-fiction Alain Damasio, invité ce week-end du festival Questions d'éthique au lieu unique à Nantes sur le thème « Demain, surhumain ». Nous en reparlerons donc avec lui dans la deuxième partie de la Grande Table. Mais d'abord, Paul Claudel, double affiche, avec en ce moment Le Partage du Midi, mis en scène par Éric Vignier à Strasbourg, puis du 12 au 19 décembre à Rennes, avant de gagner le Théâtre de la Ville à Paris le 29 janvier. Et en même temps, L'Échange par Christian Sciaretti, à voir encore ce soir et demain au Théâtre des Gémeaux à Sceaux, puis au Théâtre de Villeurbanne du 6 au 23 décembre, TNP qu'il dirige, avant une tournée qui passera par La Rochelle, la Comédie de Picardie, celle de Valence, puis Saint-Étienne. Paul Claudel, une langue, une foi, la femme, tout un monde. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que la poésie? L'art, comme la science, est une attitude en présence de la réalité. Et pour en tirer une réponse significative ou utile, de lui poser des questions justes. Il faut que le témoin de l'artiste, que le lecteur du poète, puisse dire en l'écoutant, « Oui, voilà ce que j'aurais voulu dire moi-même. Voilà l'idée que j'aurais voulu mettre au jour moi-même pour savoir ce qu'elle a à faire et à dire, toute nouvelle dans un monde devenu nouveau avec elle. Voilà la question que j'aurais voulu poser. » Une question si belle et si profonde est tellement irrésistible qu'elle porte avec elle-même sa réponse.
Bonjour Éric Vignier.
Bonjour.
Bonjour à vous Christian Sciaretti.
Bonjour.
Les mots de Paul Claudel, c'était en 1936. Christian Sciaretti, quelle question irrésistible pose L'Échange et vous avec en mettant en scène cette pièce de Claudel?
Oh, la même question au fond, qui se trouve derrière de ce qu'on vient d'entendre avec ce merveilleux accent picard, elle-même, le désir, voilà. C'est la question fondamentale, c'est celle du désir. Elle est inscrite de toute façon dans la profondeur poétique de Claudel et dans son rapport au monde. Vous savez qu'en substance, il a été jusqu'à dire que si Dieu évacuait le désir de son contrat passé avec l'homme, il irait le chercher en enfer. Et vous savez qu'un des textes qui le motive à l'origine, c'est les humiliations et une saison en enfer, et que la question du désir, elle est bon. Ça, sauf que c'est un désir qui est ancré dans une réalité. C'est ce qu'il dit aussi par rapport au monde tel qu'il est. Claudel, la béatitude de Claudel, c'est la solidité du monde, dans lequel, évidemment, le désir est actif. Donc, le désir dans le monde contemporain tel que il le décrit à ce moment-là passe inévitablement par la notion financée ou marchande de l'être comme pensé comme une chose. Enfin, il y a une sorte de pensée de la réification de l'individu et qui on peut acheter son désir.
Voilà. L'Échange, pièce écrite en 1894 lors du premier séjour américain du vice-consul Claudel, qui met en scène deux couples, celui formé par l'homme d'affaires Thomas Pollock Nageoire avec l'actrice Letchy et celui de Louis Lane, métis indien, avec Marthe, la française, son épouse. C'est un quatuor à cordes qui ne demande pas à être mis en scène, mais à être mis en jeu, avez-vous dit, Christian Sciaretti, un ballet de quatre âmes qui, au fond, n'en représente peut-être plus qu'une seule, celle de Claudel, non. Contrairement aux souliers de satin et tout comme Le Partage du Midi. Éric Vignier, cette idée évoquée, celle du désir par Christian Sciaretti dans L'Échange, est-elle la même dans Le Partage du Midi? Quelle idée met-il à jour Claudel dans cette pièce-là?
Moi, je pense que c'est l'amour. Je pense que c'est le désir dans le sens de l'amour. C'est une pièce, Le Partage du Midi, qui est très autobiographique, qui est très liée à sa vie. Donc, faut bien imaginer que cet homme, à la fin du 19e siècle, a vécu une sorte de trahison, enfin d'abandon de Dieu. C'est-à-dire, il voulait se destiner vraiment à ça et s'éloigner du monde d'une certaine façon et de la réalité en retrouver une autre. Et à partir de là, il a eu une conversation intime avec Dieu et ce Dieu lui a répondu non. Et à partir de ce nom, il a pris un bateau qui s'appelle l'Ernest Simons à Marseille en 1900 et il a accepté un poste de consul en Chine. Et sur ce bateau, lui est proposé une forme d'amour auquel il va céder d'une certaine façon et qui le trahira encore une seconde fois. Donc ce partage de midi est doublé, je dirais, d'un une double trahison, un double abandon sur la question de l'amour. Et donc après, quand il rentre en France, 1905-1906, il va écrire ce partage de midi sur une douleur profonde, en fait.
Et toute noblesse est de souffrir et de résister. Hein.
Voilà.
Et il dit aussi, c'est effectivement dans le partage, ce voyage vers l'extrême-orient du paquebot à Hong Kong, une pièce, vous l'évoquiez, largement autobiographique, où l'on retrouve dans le personnage de Meza son double, un personnage en lutte, complètement tiraillé, Éric Vignier. Vous, Christian Scaritti, qui êtes un fidèle de Claudel, que vous retrouvez aujourd'hui après avoir monté l'annonce faite à Marie et la messe là-bas, alors que l'on célèbre aujourd'hui les 150 ans de sa naissance, il faut le rappeler, quel sens vous donnez à le mettre en scène aujourd'hui, Claudel ?
Alors, vous savez, dans le cadre d'un théâtre public que je dirige, je dirais que c'est une nécessité évidente, c'est presque contractuel.
Mais tout le monde n'y arrive pas.
Alors, tout le monde n'y arrive pas, bien sûr. Parce que, au fond, Claudel, en tant que poète et en tant que dramaturge, est sans doute le premier, et à ce jour peut-être le seul dans cette grandeur, à écrire un répertoire baroque. Attendre une résolution baroque à la révolution romantique, en réalité. C'est-à-dire que, depuis le classicisme, on connaît l'orthodoxie classique et l'espèce d'immobilité et de la langue et du corps français de l'acteur. Victor Hugo donne son coup de boutoir, on le sait, avec les romantiques et la déstructuration, mais toujours de l'alexandrin. Et Claudel tend ce vers extraordinaire, qu'on appelle le verset claudelien, expression que n'aimait pas du tout Claudel, et propose à la scène une révolution scénique que la France n'a pas connu pendant 3 siècles. C'est-à-dire que ce qu'il propose, c'est tout simplement une véritable réponse à la règle des 3 unités. C'est-à-dire que, ce qui n'est pas tout à fait vrai pour l'échange qui est dans une unité de temps, mais en réalité, il déplace les espaces, il déplace les énergies, il cumule les histoires, s'il y a des histoires parallèles, il n'y a pas d'unité d'action, et il propose un vers qui est un vers charnel, un vers d'implication corporelle. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français n'ont toujours pas fait cette révolution-là. Donc, en quelque sorte, il n'est pas actuel, Claudel, il est futur. Et que la résistance à Aimé Césaire, que moi j'ai monté, qui est un auteur qui doit tout, pour une bonne partie de sa stylistique théâtrale, à Claudel, la résistance qu'il y a eu à cet auteur-là, elle vient de son lexique, qui apparaissait comme un lexique qui n'était pas autorisé dans une langue française normative. Or, Claudel, c'est exactement ce qu'il fait, il nous propose un lexique qui est un lexique exacerbé. C'est pour ça que, dans le partage, c'est vrai que la question de l'amour est fondamentale, parce qu'il a fait l'expérience, dans les chants, c'est vraiment la question du désir, c'est-à-dire de son expression la plus brutale, la plus concrète, la sexualité. Il y a dans le texte un lexique sexuel. C'est quand même assez étonnant chez un auteur qu'on l'a dit catholique, dogmatique, etc., et figé. Ce qui n'est pas vrai du tout. Donc voilà, c'est au nom de cette révolution textuelle et de son devenir, et je dirais d'une fainéantise nationale dans le regard intelligent sur le répertoire et sur l'évolution de notre langue que je le monte.
C'est aussi un auteur qui forme la jeunesse, Éric Vignier. Vous êtes entré avec lui au Conservatoire de Rennes, ressorti avec lui au Conservatoire de Rennes. Vous n'avez peut-être pas beaucoup hésité. De Paris. Pardon, vous n'avez peut-être pas beaucoup hésité pour le mettre en scène, mais est-ce qu'il vous a beaucoup résisté ?
Ben, curieusement, il ne m'a pas trop résisté.
Mais parce je que sais vous pas, avez grandi avec lui.
C'est une fréquentation, je pense, très lente, en fait, très, très, très ancienne, hein, parce que j'ai découvert quand j'étais très jeune, donc j'étais impressionné par cette poésie que je ne comprenais pas, mais j'en étais ému. C'est-à-dire que je pense que j'ai touché le sentiment... Sur ce qui a généré finalement l'écriture de cette œuvre-là. Et c'est une langue qui est, comme disait Christian, qui est excessivement érotique, qui est vraiment chargée d'une puissance érotique, qui ne peut passer que par le corps. Il faut rendre hommage aux acteurs qui doivent la porter, parce que c'est à la fois incarné et distancé. C'est très difficile à faire, en fait. Et là, curieusement, je pense que, en ce qui concerne le partage, il y a une rencontre entre les acteurs et puis le texte qui a fait que on a les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on a à la fois une chose très concrète et très charnelle et une construction, je dirais, de la langue érotique comme ça qui se passe sur le plateau. Donc on n'est pas dans une exposition de situation, comme disait aussi Christian qui connaît mieux l'œuvre que moi. Mais on est vraiment dans un poème dramatique, c'est-à-dire que c'est Claudel qui écrit, et il écrit, et il se coupe en quatre, enfin je veux dire, il se partage entre Méza, Amalric, Isée et De Cise. C'est-à-dire on peut pas mettre en scène ce théâtre-là en partant de seulement de situations psychologiques ou de situations. Il faut considérer que c'est un long poème dramatique chargé d'une force, je dirais, érotique et qui s'appuie sur un sentiment tel que Jouvet pouvait l'exprimer.
Il y a un Claudel poétique, il y a un Claudel théâtral aussi, avec cette spécificité, cette originalité, mais aussi la difficulté de cette langue que vous avez déjà évoquée l'un et l'autre. À l'école Vitesse, Christian Schiaretti, le texte est fondateur, mettre les mots sur le devant de la scène, faire voir ces mots pour mieux saisir le monde. C'est ce que vous avez transmis votre professeur au conservatoire, là encore. Antoine Vitesse, sur la langue de Claudel et sur sa mise en scène de l'échange à lui, première version comme vous.
C'est injouable, Claudel, si vous voulez. Ça pose des problèmes, maintenant solubles, mais qui sans doute au début semblaient tout à fait insolubles, tout à fait invraisemblables, incroyables. C'est une nouveauté de style pour le théâtre de son époque. Donc cette nouveauté, il a fallu lui donner une forme, lui trouver une forme. Il a fallu répondre aux problèmes posés par le poète. Et puis d'autre part, je me suis attaché à monter la première version d'échange et pas la deuxième. La première est la plus ancienne, le poète avait 25 ans, c'est une version qui date environ d'il y a plus de 80 ans. Hein. Et c'est cet art de la fin du 19e siècle, du début du 20e, l'art qui était encore l'art symboliste, ce n'est pas loin de la poésie de Maurice Maeterlinck, ce n'est pas loin de Rimbaud, c'est une poésie faite de longs morceaux de littérature, extrêmement brillant. Ce n'est pas loin également de la structure des œuvres de Wagner. Ça, je trouve que c'est passionnant de montrer cela. Si vous voulez, de montrer Claudel dans le temps, dans le passé. C'est-à-dire que Claudel n'est pas notre contemporain, comme disait l'autre. C'est intéressant de montrer le temps, là, de montrer le temps qui le sépare de nous, qui nous sépare de lui.
Bon, il nous contredit un petit peu en refusant de faire de Claudel un de nos contemporains. Toujours est-il que Claudel reste assez incompris pour beaucoup aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il ne faut pas le ranger d'abord du côté des poètes, Christian Schiaretti?
Oui, alors on peut faire l'économie de son théâtre, tout à fait. Mais il y a une chose qui sera forcément rédhibitoire, c'est que c'est une langue de corps, c'est une langue charnelle, puisque le vers est constitué et construit sur le souffle. Le souffle met en jeu le corps. Si vous le laissez que dans sa dimension poétique, il est fort à parier que l'expérience du souffle, vous ne le ferez pas, puisqu'il sera enclos dans la lecture. Donc le théâtre permet tout simplement la mise en péril et l'effet du poétique physiquement incarné, et donc on vérifie la poésie dans sa matérialité corporelle.
Mais qu'est-ce qu'il nous dit Vitesse alors quand il dit que c'est injouable?
Moi je pense que
c'est
Vitesse
dit... C'est interprétable mais pas...
C'est parce que quand jouable. On l'a... Je pense que Vitesse est à ce moment-là à l'école peut-être d'un devenir qui lui fera faire le Sully de Satin. C'est pas parce que c'est Antoine Vitesse qu'il n'est pas économe de bêtises, et je trouve que ce qu'il dit là est pas très malin. C'est-à-dire que précisément l'expérience de la mise en scène de l'échange prouve qu'il est jouable. Il y a d'ailleurs des œuvres qui sont plus complexe. L'annonce faite à Marie est beaucoup plus difficile à faire, par exemple, que l'échange ou à faire que le partage, puisque vous avez une narration crédible, alors que dans l'annonce vous avez une fantasmagorie. Donc en réalité, non, là ce qu'il dit, je suis pas d'accord. Je suis d'accord sur Wagner, curieusement, parce que il y a un fantasme opératique tout le temps chez Claudel, et que la mise en musique, la musicalité de son texte est au fond un opéra sans instrument. Mais donc il y a effectivement cette référence, et je suis pas du tout d'accord par exemple avec la référence à Maeterlinck. Maeterlinck est dans une économie, dans un assèchement presque extrêmement distillé de la langue, avec un seul recueil poétique, les serres chaudes, c'est tout chez Maeterlinck, alors que chez Claudel on est dans la luxuriance. C'est une poésie de l'humide. Donc sur l'injouable, je pense qu'il veut dire sans doute par là qu'il faut des acteurs très particuliers pour jouer et qu'il faut trouver ces acteurs.
Éric Vignier, d'accord avec ça, il faut donner une place au corps et à l'interprétation dans la représentation du partage du midi.
Oui, je pense qu'il y a un engagement du corps qui est très très fort, et un engagement du sentiment aussi. C'est du sentiment tel que Jouvel pouvait l'exprimer. C'est un sentiment, c'est pas la sentimentalité, hein. C'est pas la tristesse, c'est pas des choses comme ça. C'est de l'ordre de la conscience du monde et de l'abandon fondamental. Voilà. Donc il faut des gens qui aient déjà vécu une certaine vie. C'est-à-dire, on peut pas donner ça. Peut-être pour ça que j'ai rien compris quand j'avais 20 ans. C'est-à-dire, j'en étais ému, mais je ne pouvais pas le comprendre. Et c'est pour ça aussi, sans doute, que j'ai mis autant de temps pour.
Alors, qu'est-ce que vous dites à vos comédiens?
Ben, je leur dis pas grand chose, en fait, parce que je pense que là, il faut laisser les choses se faire. Moi, ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, c'est d'inscrire très fort la mise en scène aussi du partage de Bidi dans l'histoire aussi du début du XXe siècle. C'est-à-dire que l'histoire aussi du colonialisme, c'est-à-dire des gens qui vont prendre un bateau, qui vont essayer de refaire une vie ailleurs, en Chine, et ça va être un échec absolument total. Donc cet imaginaire lié au XIXe, fin du XIXe, début du XXe, il est très important pour comprendre Claudel. Donc c'est là où j'ai beaucoup agi en tant que metteur en scène, c'est-à-dire je leur ai montré la peinture du XIXe, début du XXe, etc. Parce que je pense qu'il y a une sorte de vision, finalement, dans ce partage de Midi, qui est une vision apocalyptique, qu'on va avoir ensuite avec la Première Guerre mondiale, ensuite la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, etc. Et je leur parlais, par exemple, d'Apocalypse Now ou Voyage au bout de l'enfer, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a dans cette... ce que disait, c'est quand Christian parlait de l'enfer, il y a quelque chose de l'enfer, en fait, dans ce partage du Midi. Donc on est dans des zones qui ne sont pas dans des zones réalistes, naturalistes, en tout cas. On est ailleurs. Et donc il faut essayer d'orienter les acteurs comme ça, sur un autre type d'imaginaire. Et puis après, sur la direction d'acteur, il y a effectivement cette chose un peu compliquée qui est à la fois de l'éprouver totalement et de pouvoir délivrer cette langue d'une manière un peu distanciée pour que le spectateur s'en empare. C'est-à-dire, voilà.
Une direction d'acteur très en retenue aussi, hein, pour vous, Christian Scaretti.
Oui, enfin, qui part d'abord de l'écriture et de la prosodie, c'est un respect de l'enjambement qui est voilà, un enjambement...
Il semblait que vous n'aviez pas encore dit le mot prosodie.
Oui, bah, parce qu'il faut réserver des surprises.
Ah, ouais. C'est le rebondissement.
C'est un rebondissement essentiel dans la radio. Il y a une dimension prosodique première, c'est-à-dire que quand vous prenez la partition, vous avez deux solutions. Soit vous faites absolument abstraction de la typographie et vous enchaînez tout et vous ne comprenez rien parce que c'est trop fleuri, ou alors vous vous dites, non, on va respecter la typographie. C'est toute la question du vers libre en français. On n'a pas une langue suffisamment tonique, avec suffisamment d'accent tonique, pour rendre compte d'une construction autre qu'une construction à la rime, ou à l'assonance, ou à la construction métrée. Alors on a un problème avec ça, problème que n'ont pas les Anglais, que n'ont pas les Espagnols, que n'ont pas les Italiens. Nous, on a un problème. Donc il fallait inventer un vers. Et la réponse, évidemment, est iambique. Vous savez qu'il écrit l'échange en même temps qu'il traduit Échille, et Échille est présent derrière l'échange, dans la forme, hein, et c'est un chrétien barbare, Claudel. Et donc, il prend ce modèle-là et il crée un vers. Pour obtenir ce vers à l'écoute, il faut respecter d'abord la prosodie, c'est-à-dire cette rythmique particulière, et surtout le souffle. Alors, interdiction aux acteurs de reprendre leur souffle, sinon en trichant très bien sur les très longs vers. Ensuite, accentuation du muet et gardant sa cadence. Enfin, respiration sonore. C'est-à-dire que l'effort du corps se voit, et je les dirigeais un peu comme un tube de dentifrice lorsque la pâte dentifrice commence à manquer et qu'on presse. Eh bien, l'acteur se presse, si vous voulez, parce que l'effort physique qu'il va produit un sens au-delà des mots eux-mêmes et des mots vérifiables. Vous savez, c'est la définition que Claudel donne de son vers en substance et en mémoire. Il s'agit de respirer le monde et de l'expirer dans un texte intelligible.
Voilà. Allez. On part tout de suite écouter ce verbe, cette langue de Claudel sur la scène du Théâtre National de Strasbourg où se jouait donc votre partage du Midi, Éric Vignier.
Qu'est-ce que vous lisez là, qui est défait et déplumé comme un livre d'amour?
Un livre d'amour.
Page 250. Vous avez eu raison de l'éplucher de ses feuilles extérieures. Le difficile est de finir, c'est toujours la même chose. La mort ou la sage-femme.
C'est toujours trop long. Un écrit d'amour, cela devrait être si soudain qu'une fleur, par exemple. Un parfum, vous voyez bien. Que l'on a tout eu, qu'on a tout, qu'on aspire tout d'un seul trait. Et que cela vous fit faire... Seulement un parfum si droit, si prompt, que cela vous fît sourire seulement un tout petit peu. Ah, et voilà que l'on est parti.
Ce n'est pas une fleur que l'on respire.
L'amour, nous parlions d'un livre. Mais l'amour même, ça, je ne sais ce que c'est.
Eh bien, ni moi. Cependant, je puis comprendre.
Il ne faut pas comprendre, il faut perdre connaissance. Moi, je suis trop méchante, je ne puis pas.
Je ne puis pas. Et comme je voudrais qu'on parle des personnages aussi de Claudel dans les deux pièces que vous mettez en scène, des personnages complexes avec une ambivalence tout entière contenue, peut-être dans le surnom aussi que l'on donne à Marthe dans l'échange d'où sa mère. Je vous propose d'écouter un extrait de votre échange, Christian Schiaretti, femme criant justice.
C'est le moment que la femme se fait parer tenant devant elle le miroir à deux mains. Et moi aussi, il est convenable que je me pare comme une veuve prenant d'autres vêtements. Justice ! Justice ! Je me tiens devant l'univers et je le vois, et toute chose subsiste par la justice. Et moi, je pousserai un cri, car j'ai souffert l'injustice. Et je suis petite et humble, mais mon cri ne sera point inentendu. Justice ! Justice ! J'ai aimé et je n'ai point été aimée. J'ai été unie à lui, tout vivant. Il s'est séparé de moi. Et il m'a déclaré qu'il m'abandonnait et qu'il se séparait de moi par sa propre volonté. Et il m'a vendue comme un animal.
Monologue de Louise Chevillotte en Marthe dans l'échange. Les femmes chez Claudel, héroïne mythique dans le partage du midi, personnage démoniaque, tentatrice, fleur funèbre dans l'échange. Ça c'est Litchi, baise-moi parce que je suis la liberté, ou sacrificielle comme Marthe. Que fait la femme à l'homme pour Claudel, Éric Vignier?
Bah, elle le tue, je pense. Je pense que c'est un personnage. Enfin, c'est pas un personnage en fait. C'est toutes les femmes. C'est un sentiment qu'il décrit, qui est extrêmement varié, complexe. Donc, elle est à la fois maîtresse, elle est à la fois celle qui va l'entraîner au-delà de la mort, au-delà de l'amour, au-delà de Dieu. C'est une enfant, c'est une coquette, voilà. C'est ça qu'il faut déterminer un peu dans l'écriture, parce que l'écriture, elle est très, il y a des sautes dans l'écriture. Il le dit lui-même, Claudel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas de pensée linéaire. C'est-à-dire, il va faire une chose et puis hop, il va passer à autre chose en deux secondes et demie. Donc, on peut pas être dans un parcours comme ça. Donc, il faut bien montrer les parties, passer d'une chose à l'autre. Et puis, au bout du compte, se développera quelque chose. Après, par rapport à ce partage, il y avait une chose qui m'importait beaucoup, moi. C'était que il rencontre une étrangère sur ce bateau. C'est-à-dire, cette femme qu'il rencontre, c'est une femme d'origine polonaise. Donc, là, il y a un rapport à la langue qui est un rapport à la langue étrangère et à la culture étrangère aussi.
Christian Schiaretti.
Bah, écoutez, je pense qu'il a proposé au théâtre français les plus beaux rôles féminins qui soient. Il faut peut-être remonter à Racine pour en trouver des aussi beaux. Toutes les personnages, enfin, on a plus l'envie de jouer les femmes que de jouer les hommes, quoi. Au fond, Isée, bien sûr, Marthe, évidemment, Letty, il n'y a pas une jeune fan au conservatoire qui veut pas présenter Letty, Donia Prouez et j'en passe, Donia Musique. Enfin, il a une déclinaison de fascination pour la femme et peut-être la placer à un endroit d'idéalisation un peu forcé, hein, c'est à Notre-Dame. Dans toutes les qu'il aura sa soi-disant conversion, mais donc il a c'est articulaire, mais je pense que ça repose sur une crise intérieure. C'est, vous savez, Claudel défendait l'idée qu'il ne fallait pas non pas se connaître soi-même comme disait Socrate, mais s'oublier soi-même. Donc il n'a pas arrêté de faire cela, c'est-à-dire d'essayer de conjurer sa propre existence. Au fond, dans l'échange, il ne connaît pas, il ne vérifie pas ce qu'il a pu vivre charnellement et moralement très douteusement quand même. d'un adultère vivant à trois avec son mari officiel. Il ne le sait pas, il n'en a que l'intuition. Mais il a un vécu antérieur dans une famille où la mère est évacuée toute tendresse, on le sait, dans laquelle le conflit est la base familiale, et surtout, dans lequel où il y a un enfant mort, un petit garçon mort à l'origine, qui va être remplacé par une petite fille, auquel on donnera un nom masculin qui est Camille, et qui sera une enfant de remplacement, et on va attendre encore deux accouchements pour avoir un petit garçon. Donc Paul est le remplacement d'un enfant mort dont la place a été usurpée par sa propre sœur avec un nom et qui viendra sculpteur. Donc ce face-à-face, ce premier face-à-face entre Camille et Claudel, et qui perdurera durant toute l'existence de Claudel et en tout cas de Camille bien évidemment, je crois que c'est un acte fondateur du regard sur la femme. C'est pour ça que la lecture de la femme dans l'échange est divisée en deux. D'un côté, Letchi représente bien sûr Camille, mais dans la dimension Louise Michel de Camille, anarchiste. C'est-à-dire brûler tout, brûler les banques, brûler les églises. Et puis dans la dimension orgueilleuse et volontaire de la Marthe de la première version, qui demande justice alors que la deuxième, elle demande pardon, et qui parle d'ailleurs du petit enfant mort, qui parle du petit frère mort. Donc c'est deux côtés, quoi. Il y a un côté qui est un côté presque maternel et accueillant, et puis il y a un côté tourmenté et tumultueux, une chair dévorée, Donc Claudel ne se départit pas, sa foi se fonde dans cette contradiction-là, que la femme incarne parce que c'est un homme de désir. Mmh. C'est vraiment un homme de désir.
Et surtout cette chair. Part mystique de Claudel qui reste un homme d'absolu. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons l'homme qui est à l'image de Dieu, dit aussi Marthe dans l'échange. C'est un auteur chrétien, on l'a souvent dit. Les éditions du Cerf publient d'ailleurs aujourd'hui la correspondance Maritain Bernanos-Claudel Mauriac sous le titre « Un catholique n'a pas d'allié ». Mais en tout cas, Claudel, est-ce que vous diriez-vous, Éric Vignier, que ce n'est pas un catholique empli de certitude, rempli de sa foi, mais un catholique d'abord qui doute ?
Je ne crois pas que ce soit un catholique qui doute. Je pense qu'il il dépasse la notion habituelle justement de religiosité. C'est quelqu'un qui met l'amour au-dessus de Dieu encore. Donc c'est ça qui est, c'est une forme de transgression quand même très très puissante chez ce poète. C'est-à-dire que c'est ça, oui, il met l'amour au-dessus de Dieu. Par exemple, dans le fin du partage du midi, c'est exactement ça qu'il fait. Et c'est la femme qui propose à Mesa de faire cette chose-là. Et il refuse dans un premier temps, puis après il accepte.
Christian Scaretti, ce sera le dernier mot.
Le catholicisme, pour Claudel, ça veut dire l'universel. Mm. Voilà. C'est-à-dire que le catholicisme n'est pas à raccourci et il embrasse le monde. Donc le catholicisme comme respiration. À partir de là, on sait bien que l'exégèse biblique de Claudel, et on sait aussi certaines de ses affirmations, ont gêné les catholiques, établis. Et c'est un catholicisme qui est basé sur un tourment du monde tel qu'il est. Donc voilà, je dirais que c'est un... C'est il expectore sa foi, quoi. Et il intègre sa croyance. Donc le doute, bien sûr, mais c'est une chose fondatrice du catholicisme et de la foi, le doute. Une foi sans doute.
Merci beaucoup, Christian Scaretti. Merci beaucoup, Éric Vignier. Le partage du midi est à voir prochainement, donc du 12 au 19 décembre, au Théâtre National de Bretagne à Rennes, avant de venir à Paris au Théâtre de la Ville en fin janvier. Quant à votre échange, Christian Scaretti, il est à voir encore ce soir et demain au Théâtre des Gémeaux à Sceaux, puis au Théâtre de Villeurbanne, au TNP, du 6 au 23 décembre. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.
Merci, Olivier.